Je vais vous parler des dernières découvertes sur l'ADN. Je vais vous parler du séquençage de l'ADN lui-même. Ce qui est lié, c'est la bioinformatique. Alors, l'épigénétique, je sais que c'est un mot barbare que personne connaît. Et l'année prochaine, je sais qu'il y a des élèves en première année qui vont passer en terminale. Et oui. Donc les élèves en terminale, l'année prochaine, vous allez entendre parler de l'épigénétique. Donc comme ça, je vais vous en parler, vous aurez un an d'avance. Et vous allez voir que je vais en parler de façon simplifiée. Et puis on parlera du génie génétique avec la transgénèse. Donc ces dernières découvertes, elles ont de nombreuses applications. Donc on verra ensemble, il y a au moins deux grandes applications, qui est d'une part le domaine de l'agriculture. Vous savez combien nous serons en 2050? Combien? 9 milliards. Et combien on est aujourd'hui? 7. Donc, d'ici 2030, c'est pas très loin, on sera quand même 8 milliards, donc on va gagner 1 milliard en 20 ans. C'est à peine le temps d'une génération. Donc on a une démographie qui est accélérée, et il va falloir nourrir ces nouvelles personnes. Et pour ça, on ne peut pas non plus déforester, on ne peut pas non plus polluer la planète. Donc il faut trouver une gestion durable de la planète et en même temps augmenter les rendements. Et augmenter les rendements, c'est effectivement, c'est en nombre de quintaux par hectare, ce que vous diront les agriculteurs, mais c'est aussi éviter des pertes à la récolte qui sont liées à des ravageurs ou des mauvaises herbes ou parce que les plantes se conservent mal. Donc, et aussi, il faut apporter de l'eau. Donc, il faudra adapter les plantes à des situations de sécheresse, ce qu'on appelle le stress hydrique. D'accord ? On va bien sûr améliorer les races animales pour pouvoir atteindre ces niveaux pour les 9 milliards de personnes en 2050. Alors, le domaine de l'agriculture, à part augmenter la productivité et d'être respectueux de l'environnement, c'est aussi produire des nouveaux produits, et notamment les médicaments, mais aussi de l'énergie avec le bioéthanol ou le diester. Donc d'utiliser la biomasse de la plante pour en faire une énergie, pour remplacer les énergies fossiles. Alors le deuxième domaine, c'est le domaine de la santé. Donc une plante pourrait produire des médicaments comme un animal, mais on verra que la génétique va apporter des progrès très importants en termes de thérapeutique, de diagnostic, de médecine prédictive pour savoir si on va déclencher telle et telle maladie ou pas au cours de sa vie. Et puis le dernier progrès, ce sera la pharmacogénétique, c'est-à-dire qu'avec une bonne connaissance de notre génome, les médecins, les pharmaciens seront capables de nous donner vraiment les médicaments aux doses que nous avons besoin, d'accord, dont nous avons besoin. Alors, le séquençage des génomes, il y a un S en trop à séquençage. Vous savez ce que c'est, le séquençage du génome. Vous avez peut-être dû voir peut-être les grosses machines qui permettent de le faire. Alors là, je l'ai mis à jour, ce tableau-là. Il y a 6891 génomes à l'heure actuelle qui ont été séquencés. Donc, vous voyez, la plupart, ce sont des bactéries qui ont été séquencées. Après, il y a les archées. On a les eucaryotes. On a 120 eucaryotes qui ont été séquencés. Des plasmides, 1186. Et évidemment, beaucoup de virus. Donc, ça veut dire que d'une année à l'autre, on accroît le nombre de génomes séquencés. Et leur connaissance va nous permettre d'abord de comprendre l'évolution. Vous voyez, cette espèce d'arbre... l'arbre de l'évolution, l'arbre de la vie, Donc à chaque fois, on voit une séparation des grands règnes. Hein. Donc nous, on se trouve ici. Et ça permet ces séquençages de génome de comprendre l'évolution de la vie, des organismes entre eux, comment ils échangent des éléments, hein, et puis génétique, et puis aussi de pouvoir après prédire les maladies et trouver des nouveaux médicaments. Alors, ça ne s'est pas fait sans la bioinformatique, en fait, hein, ce séquençage-là. Donc là, vous avez un séquenceur. Vous voyez, c'est une grosse machine avec un ordinateur. Et les pics que vous voyez, bon, bah, c'est ATGC, donc à chaque couleur, bon, le A c'est vert, le C c'est bleu ici, le G c'est noir, le T est rouge. Hein. Et donc ça permet ici de séquencer un locus, hein, donc une petite séquence ADN qui a un micro satellite. D'accord ? Donc en fait, depuis que la discipline de l'informatique s'est mariée entre guillemets avec les génétiques, ben, ça a permis de faire un pas extrêmement important dans la connaissance des génomes. Alors on reviendra sur nos génomes à nous. Est-ce qu'on peut savoir la séquence de notre propre génome? J'en parlerai tout à l'heure. Alors la notion de génome minimum, ça a été beaucoup discuté par les scientifiques. Est-ce qu'il y a un génome minimum qui serait à l'origine de la première cellule? Alors en fait, c'est pratiquement une fausse bonne question. Alors il y a des gens qui sont arrivés à 250, voire à 350 gènes. Puis finalement, quand on regarde l'ADN mitochondrial, on peut dire que c'est une cellule qui est rentrée dans un organisme hôte. Et puis finalement, il y a même des organismes qui ont presque plus d'ADN mitochondrial. Donc on descend presque jusqu'à zéro gène. Donc on a trouvé un microbe qui aurait de cet ordre-là, hein, moins de 400 gènes, et qui peut survivre. Alors en fait, peut-être que la bonne question, c'est quel est le nombre de fonctions minimum pour survivre. Et c'est peut-être pas une question de nombre de gènes qui rendrait donc un organisme totalement autonome. Cela dit, on a trouvé des organismes vivants quand on les cherche qui ont des adaptations très très singulières et donc ont des gènes en commun et puis des gènes qui permettent ces fonctions-là d'adaptation. Donc, par exemple, ça c'est parmi bien sûr les espèces qui ont été séquencées, hein, mais vous avez Acousex aeolicus qui est une bactérie, qui est vraiment une toute petite bactérie avec très peu de gènes et qui vit dans la mer à des températures extrêmement élevées, hein, à 95 degrés Celsius. Bon, une plante qui a été séquencée évidemment, c'est Arabidopsis thaliana. C'est une plante qui est, j'ai marqué The Species, c'est vraiment l'espèce modèle pour les généticiens des végétaux. Mais par exemple, pour les gens qui travaillent sur des organismes non végétaux et moins élaborés, comme Caenorhabditis elegans, qui est un ver qui vit dans le sol et dans des climats plutôt tempérés. Il a un corps qui est complètement transparent et donc il est très intéressant parce qu'il pose des questions fondamentales en biologie, donc on peut suivre l'expression de gènes dans certains tissus. Donc c'est un animal de laboratoire, hein, bien sûr. Et puis le moustique qui malheureusement transmet la malaria, hein, Anopheles gambiae, qui a été lui aussi séquencé. Alors je continue, je vais m'arrêter là, hein, dans cette liste, mais pour vous dire que l'homme a été a son génome séquencé depuis 2001, donc il y a 10 ans, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est des équipes américaines qui l'ont fait. Et on aurait 25 000 gènes, Donc là, à l'heure actuelle, depuis 2 ans, il y a un grand consortium, c'est-à-dire une réunion de grands groupes de laboratoires qui a le projet de 1000 génomes. Donc l'idée, c'est de séquencer des tas d'individus de différentes populations. Il y a 250 populations des 4 coins du monde pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qui nous différencie, quels sont nos gènes qui sont responsables de l'adaptation à certains milieux ou de maladies. Donc c'est un travail qui risque de nous apporter des connaissances importantes en termes d'évolution de l'humain, mais des connaissances sur le fonctionnement du génome, et puis on espère pour la médecine. Alors on a le chimpanzé qui a vu son génome séquencé. Il a 98 gènes qu'il partage avec nous en commun. Le riz, c'est extrêmement important, hein, puisque les populations en Asie du Sud-Est survivent grâce à cette plante-là. Donc, Japonica indica, il y a 2 espèces, elles ont été séquencées donc en 2002. Et enfin, un autre organisme, qui est un microbe qui vit dans l'océan Pacifique, qui est dit extrémophile parce qu'il vit il peut résister à 103 degrés Celsius. Il vit à 3500 mètres de profondeur. Donc il y a des équipes qui partent comme ça sur des bateaux, et puis il y a des sous-marins qui vont aller prélever ces organismes. Donc vous pouvez faire partie de ces expéditions, faire partie de ces équipes de chercheurs, soit parce que vous travaillez sur l'océan, soit parce que vous êtes un biologiste ou un généticien. Donc n'hésitez pas à envoyer des candidatures spontanées, et n'hésitez pas non plus dans vos études à embrasser plus tard la carrière de chercheur dans ces thématiques, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et c'est très révolutionnaire et c'est très exaltant, parce que tous les jours il y a des nouvelles qui tombent. Alors vous avez dû dans votre vie de lycéen donc apprendre que un gène produit une protéine. Donc voilà, un gène, il est constitué d'exons et d'introns. Bon, je vais pas vous faire un cours de génétique, hein, c'est juste des petits rappels. Et puis vous avez l'ARN messager dont les introns ont été excisés, et on ne garde que donc les exons. Alors en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Un gène peut produire plusieurs protéines, et en fait, c'est des réseaux de gènes, hein, qui fonctionnent et qui permettent justement ces grandes fonctions. Alors ne soyez pas effrayés par cette diapositive. C'est simplement une représentation, de 5 chromosomes. De la petite plante dont je vous parlais tout à l'heure, d'Arabidopsis thaliana, The Species, qui est le plus petit génome de plante supérieure. Voilà, il a 5 chromosomes. Et on voit que finalement, son génome, c'est une mosaïque de gènes. Donc, vous voyez, il y a des couleurs. Vous voyez le jaune qu'on retrouve sur le chromosome 5, aux 2 extrémités. Sur le chromosome 4, on peut voir ici que une partie des gènes ici se retrouve sur le chromosome 1. Sur le chromosome 3, il y a une partie de gènes qui se retrouve sur le chromosome 5, mais inversée par rapport à l'ordre de cet autre groupe de gènes du chromosome 3 qui se retrouve au début du chromosome 5. Donc voilà, il y a beaucoup de mouvements dans le génome. Ça prend des places différentes, ça va d'un chromosome à l'autre, ça saute, ça se duplique. Hein, vous avez voyez, le gène rouge, il est en 3, il est représenté 3 fois sur le chromosome 5, et puis on va le retrouver inversé dans le chromosome 1. Puis on va le retrouver sur le chromosome 4, il s'est dupliqué, on le retrouve sur le chromosome 3, etc., etc. Alors, c'est le plus petit génome des plantes. Vous imaginez, pour les alliums que j'ai bien travaillé, puisque j'ai travaillé entre autres sur l'oignon qui est un des plus gros génomes, c'est très compliqué. Alors, il y a beaucoup de séquences qui ne codent pas. Hein. Il y a beaucoup de zones en gris qui représentent en fait des gènes qui ne s'expriment pas, qui sont bourrés de rétrovirus, en fait des traces ancestrales de mouvements qu'il y a eu entre les cellules qui ont échangé des matériels génétiques. Donc voilà une représentation d'un génome. Et on peut aller plus loin et on peut comparer les génomes entre eux. Donc ça a été fait au milieu des années 90. Il n'y a pas tout à fait 20 ans. Il y a des gens qui se sont dit, mais si on comparait les céréales comme le maïs ici et le sorgho, on pourrait rajouter le mil, le millet. Et pareil, les gens se sont rendus compte qu'il y avait des gènes qui se retrouvaient aussi chez le sorgho, mais pas dans le même ordre. Donc il y a des gènes en commun. Et il y a des gènes qui ne se retrouvent pas dans le même ordre, il y en a qui sont dupliqués. Donc ça a fait dire aux chercheurs que peut-être il y aurait un ancêtre commun et que, évidemment, on ne peut pas y accéder puisqu'il a disparu. Mais du moins, si on regarde différents génomes hein, de céréales, donc là, on peut regarder ici... le riz et le sorgho. Donc, la même idée, on a un réseau de gènes. Vous voyez, les gènes qui se retrouvent en commun avec différentes espèces de céréales, on les retrouve aussi dupliqués. Donc, finalement, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est la même, en plus compliqué parce qu'on compare davantage de génomes. Donc, vous voyez, pour arriver à faire ce travail-là, il faut plusieurs équipes, plusieurs chercheurs, et puis il faut séquencer entièrement les génomes. Donc, ces gènes en commun, c'est drôlement intéressant parce que ça nous permet de comprendre l'origine des céréales, hein, ici. Mais peut-être que ça pourrait permettre de comprendre des fonctions qu'elles ont en commun. Et inversement, une plante qui présente une adaptation particulière qui n'est pas partagée par les autres espèces, eh bien, justement, par transgénèse, on va pouvoir transférer. Donc voilà. Donc là, les couleurs, ça vous indique les taux de recombinaison, les séquences répétées, la densité de gènes, c'est en vert. Vous voyez, il y a des zones qui sont plus vertes que d'autres. Vous voyez, là, c'est quand même un petit peu moins vert qu'ici. D'accord ? Là, c'est très, très vert. Il y a beaucoup de gènes. Donc, voilà, ça, c'est le nombre de chromosomes hein, qui sont numérotés. Donc, c'est le génome, c'est bien un réseau de gènes hein, qui interagissent entre eux sur leur expression et qui partagent donc certaines de leurs séquences avec les autres espèces. Alors oui, il y a forcément un ancêtre commun entre le maïs et le sorgho. Donc là, c'est là, c'est aujourd'hui. Donc il y a 20 millions d'années, probablement eu un ancêtre au départ. Et puis peut-être il y a 10 000 ans. Peut-être un peu moins, on a commencé à domestiquer, vous savez, les céréales dans le croissant fertile, hein, c'est l'Iran, l'Irak, la Turquie, Israël, enfin, toute une zone qui est politiquement extrêmement sensible. Il y a beaucoup de sites archéologiques où les archéologues, les ethnobotanistes, les généticiens, les agronomes sont allés sur place. Comprendre ces premiers hommes qui se sont sédentarisés près du Tibre et de l'Euphrate, ces deux fleuves, en sortant de l'Afrique et en passant par l'Égypte, ils se sont installés là et ils ont commencé à domestiquer les plantes. Donc c'est les premiers débuts de l'agriculture, peut-être 10 000 ans, 9 000 ans. Donc c'est probablement à cette époque où le maïs et le sorgho se sont séparés. Puis après, le génome du maïs est beaucoup plus grand que le génome du sorgho, probablement parce qu'il y a plein d'éléments transposables, donc c'est des éléments qui bougent dans le génome et qui ont tendance à se dupliquer. Donc ils rajoutent de l'ADN dans le génome et ça peut faire des génomes extrêmement grands, comme celui du maïs. Alors les raisons pour lesquelles il y a beaucoup de rétro-éléments, rétro-transposons ou éléments transposables qui peuvent être pas forcément des rétro-éléments, hein. Ça on connaît pas très très bien l'origine, on sait pas pourquoi. Donc on aimerait bien comprendre, en tout cas ils sont source de variabilité, c'est certain, et ils jouent probablement sur l'expression des gènes. Alors justement, j'en arrive à l'expression des gènes. Donc on pense que voilà, le gène va produire une protéine. Mais on a découvert, alors ça je sais que ce n'est pas à votre programme, j'en ai discuté avec le professeur, mais ça vous allez apprendre ça l'année prochaine à l'université, ou si vous voulez faire les classes préparatoires, c'est l'épigénétique. Donc c'est un ensemble de modifications qui se transmettent d'une génération à l'autre, qui sont réversibles, et c'est des modifications qui touchent l'expression des gènes, mais qui n'altèrent pas la séquence nucléotidique. C'est-à-dire la séquence, elle est la même, mais l'expression est différente. Alors là, ça paraît très 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 bizarre, mais malgré tout, on a découvert ça. On a découvert une relation entre des modifications épigénétiques qui étaient liées à la méthylation de l'ADN. Alors la méthylation de l'ADN, c'est ça, c'est un groupe méthyl qui se fixe sur la cytosine. Donc la cytosine, vous connaissez, hein. Et quand un groupe méthyl CH3 se fixe sur la cytosine, elle est dite méthylée. Alors il y a une enzyme qui fait ça, hein, DNMT. Et bien du coup, quand le gène a des cytosines méthylées, eh bien il ne peut plus s'exprimer. Donc c'est des enzymes, hein, l'ADN méthyltransférase, qui assure l'addition d'un groupement méthyl à partir d'un donneur, qui est la S-adénosylméthionine, c'est la SAM. Les produits de la réaction sont une cytosine méthylée et une molécule de S-adénosylhomocystéine, SHH. Voilà la définition. Comme ça, je vous la donne, vous l'avez. Si vous regardez de nouveau cette présentation sur Internet, vous pouvez récupérer la définition. Et assez récemment, en 2003, il y a des chercheurs qui ont fait un lien avec l'apparition des cancers qui peut-être justement serait lié à la méthylation de l'ADN. Donc vous voyez que c'est pas neutre et on pense qu'il y aurait beaucoup d'anomalies qui seraient liées à ces phénomènes épigénétiques. Alors il y a des maladies qui sont pas dues à une variation de la séquence d'ADN, mais d'autres types de mutations. Il y a des mécanismes épigénétiques qui pourraient constituer des nouvelles cibles pour la mise au point de médicaments. Et on verra qu'on peut maintenant réfléchir à notre hérédité, hein, à la lumière de cette méthylation. On n'est pas le pur produit de nos gènes. C'est-à-dire que nos gènes, ils peuvent être méthylés ou pas. Et on pense aussi que dans la vie intra-utérine, quand on était dans le ventre de notre mère, la façon dont elle s'est nourrie, la façon dont elle a vécu sa grossesse, a un impact justement sur l'expression de nos gènes, et probablement un impact via la méthylation. Et peut-être qu'au cours de notre vie, notre façon de vivre, notre façon de manger, de fumer des cigarettes ou d'utiliser des substances interdites, toxiques, peuvent entraîner justement des mécanismes épigénétiques qui feraient qu'il y ait des gènes qui ne pourraient pas s'exprimer ou au contraire qui s'exprimeraient alors qu'il ne le faudrait pas. Donc, ce qu'on appelle l'effet environnement, via la méthylation, ça commence maintenant à être plus ou moins élucidé. On est en tout cas sur cette voie-là. Alors, j'ai un message que je vais éteindre. Voilà, en espérant que ça ne coupe rien. Toc. Donc le cancer, c'est clairement une maladie de gènes, hein, et ça serait peut-être lié à ça. Alors, la méthylation, c'est un bon exemple pour démontrer son existence. C'est une étude qui avait été menée sur la couleur du pelage de petites souris. Donc il y en a un qui s'appelle Agouti, hein, c'est un des gènes qui fait la couleur du pelage. Donc le gène AVI, c'est le nom pour Agoutive Variable Yellow, il ne présente pas de méthylation, d'accord ? Donc il est actif dans toutes les cellules et la souris, elle est jaune, enfin elle est jaune, elle est brun clair. Mais elle est très sensible à des tas de maladies, l'obésité, le diabète et le cancer. Alors ça en fait des bêtes de laboratoire pour étudier toutes ces maladies. Et on a montré que si AVI, ce gène-là, était hyperméthylé, donc le petit groupement CH3 sur les cytosines, eh bien l'expression s'éteint dans tout le corps. Du coup, la petite souris, elle est brune, d'accord, et elle est en bonne santé. Donc vous voyez le lien entre la méthylation et le cancer de tout à l'heure, il est illustré par cette expérience. Alors, d'autres expériences sont arrivées assez récemment, qui sont les cellules souches. Alors, vous peut-être vous avez un petit peu entendu parler. Alors, la voilà. C'est une cellule souche embryonnaire. Hein. La tête qu'elle a. Et c'est des découvertes extrêmement importantes. Donc, ces cellules souches, on les a découvertes dans l'embryon humain et chez nous, adultes. On en a dans notre corps. Et évidemment, ça va permettre dans la thérapie cellulaire hein, de pouvoir réparer des tissus endommagés parce que ces cellules-là, elles sont capables de s'auto-renouveler et de générer plein de lignées cellulaires. Elles peuvent faire des cellules musculaires, des neurones, des cellules hépatiques, hémato-poïétiques. Donc elles se différencient. Alors elles sont intéressantes d'un point de vue fondamental parce que des cellules qui s'auto-renouvellent, tout de suite ça fait écho aux cellules cancéreuses et les cellules type métastase. Et si on comprend pourquoi elles se renouvellent, peut-être on comprendra pourquoi les cellules de cancer malheureusement se transforment en métastase. Donc ça pourrait être un grand pas aussi pour guérir le cancer. Alors voilà ce qu'on était quand on était dans les premiers moments de la vie. Bon, vous connaissez peut-être ce schéma-là. Alors là, on a un ovule qui est fécondé par un spermatozoïde. Bon, très bien, ça forme un zygote. Et les cellules se divisent, elles sont dites totipotentes. Alors il y a un stade qui est le blastocyste. Donc vous voyez, c'est, j'allais dire, la face nord et la face sud, hein. Voilà le blastocyste. Et ces cellules sont dites pluripotentes. C'est-à-dire que, bon, elles peuvent se différencier dans plein de types cellulaires, moins que la cellule totipotente, bien sûr. Et puis le blastocyste, s'il continue son développement, il va donner un embryon fœtus, et puis après un adulte. Alors, chez le fœtus, on peut prendre des cellules, elles sont dites polypotentes, hein. Et on peut faire un certain nombre de lignées cellulaires, mais moins que les cellules pluripotentes. Alors, on a découvert les cellules souches embryonnaires et on en a découvert aussi chez l'adulte, hein, dans la moelle osseuse, et on en trouve maintenant partout dans tous les organes quand on les cherche. Et puis récemment, en 2009, la revue Science, il y a deux grandes revues, hein, en science, vous en parler. Il y a la revue américaine qui est Science, pour science, qui est produite par l'American Association for Advancement of Science. Et l'autre, c'est Nature, Nature, qui est en fait une revue britannique dont les quartiers généraux sont à Londres. C'est des journaux hebdomadaires. Et nous, les chercheurs, on a des alertes par email sur les sommaires de ces deux grands revues scientifiques, et parfois même en avant-première des articles qui vont paraître quelques jours après. Donc ça permet aussi aux journalistes d'avoir accès à l'information avant les autres pour qu'ils puissent rédiger leur article. Alors là, il y a deux équipes, l'une japonaise avec le docteur Yamanaka à Kyoto, et puis Thompson, docteur Thompson dans le Wisconsin aux États-Unis. Et tous les deux, ils ont publié leurs travaux où ils ont en fait rendu des cellules adultes de la peau humaine pluripotentes. Donc elles redeviennent pluripotentes. C'est comme si elles reculaient dans le temps. Elles redeviennent comme des cellules de même pas de bébé, hein, puisque c'est le stade blastocyste, hein, bien antérieur. Et ça, ils ont par transgénèse rajouté 4 gènes. Donc c'est des cellules transgéniques, d'accord, qui permettent d'être pluripotents. Donc ça a été totalement révolutionnaire. Du coup, Science a déclaré que c'était la découverte de l'année 2009. Et Yamanaka et Thompson continuent à publier leurs travaux. Et maintenant, il y a des nouvelles applications. C'est vraiment devenu révolutionnaire. Alors, une autre approche, une autre grande découverte de la génétique, c'est la création, ça va peut-être vous choquer, d'homme-animal. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'homme, c'est un animal. On est d'accord. L'idée, c'est de, finalement, de prendre un ovocyte non humain, alors la lapine ou la vache ou la femelle, la truie du cochon, d'enlever son noyau et de mettre un noyau humain à la place. Après, par des décharges électriques, ce noyau humain, qui peut venir de la peau d'ailleurs, ou d'une cellule de l'oreille, va se développer comme un blastocyste. Donc là, on est vraiment proche du clonage humain. D'accord ? Bon, le clonage humain, depuis Clinton et Chirac, les deux présidents, il y a une interdiction, hein, internationale, c'est un crime contre l'espèce humaine de faire le clonage. Et en France, c'est sévèrement puni. Donc, les Anglais autorisent de faire ces hybrides humains-animaux en intégrant de l'ADN humain dans des ovules non humains à des fins de recherche. L'idée, c'est d'arrêter à 14 jours de développement. Alors, effectivement, 14 jours, c'est un peu la limite entre l'embryon et le fœtus. Bon, les Anglais, ils appellent ça le pré-embryon. Entre 0 jour et 14 jours, on est chez le pré-embryon. Nous, les Français, on dit rien, c'est un embryon. Bon. On est dans un continuum de développement. Alors, ils ont décidé, en 2008, la création de ces embryons pour avoir des cellules souches en grande quantité. D'accord ? Et sinon, il faut avoir des embryons humains. Alors, on peut évidemment, maintenant, avec cet ADN à partir de cellules souches adultes, avoir ces lignées-là. Alors évidemment, ça permettra après, plus tard, de résoudre des questions comme la maladie de la mucoviscidose, la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Donc, ils estiment que là, il y a un progrès théorique important et qu'on fait tomber les barrières entre l'espèce humaine et les autres formes. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions médicales à résoudre. Et entre autres, la thérapie génique est une autre technique qui permet d'apporter un gène sain. Donc il y a des essais sur la mucoviscidose, hein, il y a un enfant sur 2500 qui est atteint de cette maladie. C'est une mutation, delta S508, c'est en position 508, la phénylalanine, elle est manquante dans la protéine. Donc l'idée, c'est d'apporter un gène qui n'ait pas cette délétion. Donc la mucoviscidose, vous savez, c'est des enfants. Alors il y a différentes formes de mucoviscidose. Il y a des formes sévères et des formes qui le sont moins. C'est des sécrétions pulmonaires qui sont très visqueuses. Et donc c'est problématique parce que vous pouvez vous étouffer. Et c'est la lipase gastrique qui est manquante, puisqu'elle est le gène est déficient. Donc, il faut administrer des sucs gastriques à ces enfants-là. Donc, justement, nous discutions de cela au déjeuner où j'étais conviée avec l'équipe pédagogique. Et pour faire un lien avec les plantes transgéniques, donc ça coûte cher, ces médicaments. Hein. Bon, ils sont produits par le porc, on prend les sucs gastriques du porc. Et en fait, ça coûte très cher. Donc, les médecins auraient voulu avoir de la lipase gastrique à moindre coût, qu'on puisse vendre dans différents hôpitaux, voire en pharmacie, pour que les parents puissent y accéder très rapidement. Donc l'idée, ça avait été de transférer en fait le gène du chien qui produit la lipase gastrique du chien. Alors pourquoi le chien? Parce que il arrivait bien à s'exprimer dans le génome du maïs, était suffisamment proche du gène humain. Alors vous allez me dire pourquoi on n'a pas pris le gène humain? Bonne question. Mais peut-être qu'il y avait déjà des difficultés peut-être à le transférer et qu'il puisse bien s'exprimer. Donc c'est étape par étape, bien sûr. Donc ça a été produit par le maïs, ça avait été autorisé par les experts pour que ces maïs-là soient cultivés en plein air, en plein champ, pour voir leur comportement. On dit le comportement au champ, d'ailleurs, c'est la phrase des agronomes. Et puis, malheureusement, ça a été fauché par des groupes anti-OGM. Et ça a été très fâcheux parce que la présidente de l'association des malades souffrant de la mucoviscidose était extrêmement déçue et très inquiète parce que ces progrès-là ne verront jamais le jour, ne donneront jamais les résultats. Donc ça a carrément arrêté les recherches. La petite boîte privée qui avait monté cette manip avec des chercheurs de laboratoires publics a fait faillite. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils étaient arrivés à un stade de production donc de cette enzyme, la lipase gastrique. D'abord, ça aurait été une première internationale, hein, une première mondiale, et ça aurait pu guérir des tas d'enfants à moindre coût. Donc là, pour l'instant, c'est à l'arrêt, et c'est vraiment grave ce qui s'est passé. Donc on espère que les travaux vont reprendre, mais en tout cas pas par cette société, puisqu'elle a fait faillite. Alors, donc la lipase gastrique dont je vous ai parlé, hein, en thérapie génique, on essaye de faire ces essais-là. Et puis, bien sûr, il y a la médecine prédictive, c'est-à-dire est-ce qu'on peut prévoir que j'aurai la mucoviscidose? Est-ce que mon enfant aura la mucoviscidose ou d'autres maladies? Donc, bon, je sais que vous êtes des scientifiques, donc vous avez fait de la génétique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les histoires d'hérédité récessive et dominante. Hein. Mais il faut savoir que on peut peut-être prévenir certaines maladies parce que à l'aide de tests génétiques, on va pouvoir prévoir l'existence du gène chez les enfants qui vont naître ou bien sur nous. Alors il y a des tests qui sont réalisés pour deux grands types de maladies, les diagnostics pré-symptomatiques, c'est-à-dire le gène ou l'anomalie chromosomique responsable de la maladie est bien identifiée. Donc là on peut faire un test dans les familles et pour les malades. Et puis on a les diagnostics de prédisposition. Donc ça c'est pour des maladies plus compliquées qu'on dit multifactorielles. Donc ça résulte à la fois de facteurs génétiques et de facteurs liés à l'environnement. Alors peut-être qu'il y a de la méthylation des gènes derrière, ça on ne sait pas. En tout cas, on peut non pas évaluer une maladie, mais un risque de maladie, et avec des statistiques. Alors, il y a des mutations autosomiques récessives, donc il faut que les deux parents, les deux chromosomes soient mutés. Et là, effectivement, c'est le cas de la mucoviscidose. Il faut que les deux parents soient porteurs d'une mutation. Alors, évidemment, il y aura un enfant sur quatre qui aura la maladie. Et ça, au moins, on peut quand même le prédire. Alors, il y a des formes particulières de mutations où c'est des triplets qui s'amplifient. Et ça augmente progressivement d'une génération à l'autre. Et il y a des formes graves de génération en génération. Et notamment la maladie de Huntington, qui est une maladie très sévère, qui est transmise par le père, qui est une maladie neurodégénérative. Donc si dans votre famille, il y a des malades qui souffraient de la maladie d'Huntington, et que vous êtes un mâle, il y a des chances que ça soit transmis par le père. Et malheureusement, il y a toute une question éthique qui se pose. Faut-il annoncer à l'individu le passé de sa famille? Il est en droit de savoir, mais il est aussi en droit de refuser l'information. Donc il y a eu toute une commission d'éthique qui s'est réunie pour voir est-ce qu'on diffuse l'information ou on fait une rétention de l'information, est-ce qu'on doit informer le malade ou pas du fait qu'il va avoir la maladie de Huntington qui apparaît tard dans la vie, enfin tard pour vous. Mais c'est de l'ordre de la trentaine, donc c'est pas si tard que ça dans la vie. Alors, quand on a 18 ans, est-ce qu'il faut indiquer ça à un jeune adulte qu'à 30 ans, il va avoir ce type de maladie, parce que malheureusement, il a ce gène-là, et que malheureusement, on ne sait pas le guérir. Aujourd'hui, peut-être que demain, on va annoncer dans la presse qu'on sait guérir. D'accord ? C'est pour ça que c'est important de faire de la recherche. Moi, c'est la raison pour laquelle je continue ce travail qui me passionne, c'est d'avoir humblement quand même la sensation que j'agis pour l'avenir, mais aussi pour le présent, en apportant ma petite brique. Mais tous ensemble, on est capable d'apporter de la connaissance et résoudre des questions aussi importantes que celles-ci. Alors, par exemple, le test génétique qui va indiquer qu'effectivement il y a ce triplet qui est présent dans le gène, il ne peut pas prédire l'âge et la gravité de la maladie, malheureusement. Alors, vous allez me dire, bienvenue à Gattaca, vous avez vu le film ou pas? Avec mes étudiants à l'agro, l'année dernière, ils ont fait un débat sur l'eugénisme et ils m'ont dit ouais, est-ce qu'on pourrait avoir l'amphithéâtre on voudrait projeter Bienvenue à Gattaca. Alors je dis écoutez, ça me fait plaisir parce que ça fait quelques années que j'avais pas vu. Moi je l'avais vu, j'allais dire, pour des raisons professionnelles au cinéma et j'avais été complètement fascinée. J'aurais bien aimé savoir si c'était marié, s'ils avaient eu des enfants. J'aurais bien aimé qu'il y ait une suite. Alors donc, vous vous rappelez de Gattaca. Vous savez ce que ça veut dire, Gattaca? Pour ceux qui ont vu le film. C'est quoi les lettres? C'est les lettres de l'ADN. Hein? ATGC, Gataka. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, vous vous rappelez, qu'est-ce qui veut résumer le film en quelques... Qui veut oser prendre la parole? Alors, je le fais pour vous. Alors, bienvenue à Gataka, c'est un monde... Je m'assois une seconde. Hein. C'est un monde qui est pas si loin que nous, j'espère. Enfin, ça dépend des gens. Hein. J'espère qu'il n'aura peut-être jamais lieu. Enfin bref, les enfants, les enfants, n'est-ce pas, de l'amour de leur père et de leur mère, ils naissent de la sélection du meilleur spermatozoïde et du meilleur ovocyte. Donc, on croise les individus pour faire des individus avec des propriétés extrêmement adaptées, des capacités brillantes, intellectuelles. Alors, évidemment, c'est un monde où il n'y a pas de mutation. Hein. Vous savez qu'on est en train de fabriquer des tas de mutations. Fort heureusement, elles sont corrigées. D'autres, elles sont... dont une jeune femme qui est née comme ça, qui est Uma Thurman, qui est d'ailleurs très grande dans la vie, et donc elle est très grande parce qu'elle fait partie des gens athlétiques, intelligents, très adaptés, et qui vont pouvoir mener une expérience spatiale et d'aller sur une des lunes de Jupiter, hein, si je me souviens bien. Et malheureusement, il y a un jeune homme qui est Ethan Hawke, l'acteur, qui est le il y a Jude Law derrière, qui fait lui, et lui c'est Ethan Hawke, et lui il est né de l'amour de sa mère et de son père, donc il n'a pas été sélectionné pour les gènes de ses parents, qui rêve d'aller sur une des lunes de Jupiter, mais il peut pas rentrer dans cette cité qui forme en fait des spationautes. Parce qu'il n'est pas aussi brillant, etc. Donc, il est quand même déterminé à vouloir y aller, et il va tricher. Il va trouver un subterfuge pour rentrer dans cette cité, et il va utiliser l'ADN de quelqu'un qui est très brillant, qui est Jude Law, qui ses capacités extraordinaires, mais qui est malheureusement est paraplégique. Il est dans une petite chaise roulante à cause d'un accident, et il ne pourra jamais aller sur une des lunes de Jupiter. Et donc ils font un deal entre les deux. Il va donner le sang, l'urine, son sang, donc comme ça on peut prendre l'ADN hein, du sang et de l'urine, à Ethan Hawke, qui va se faire prendre pour lui, en fait. Et tout le film consiste, en fait, à défier toutes les inspections. Et effectivement, à un moment donné, la cité se rend compte qu'il y a un intrus, qui n'est pas quelqu'un qui sort avec ses potentialités, ses propriétés hyper brillantes, qui sort du lot, et donc il y a un intrus. Et il se rend compte tout de suite qu'il va être repéré. Il s'est fait repérer parce qu'il tapait sur l'ordinateur et il y a des cils qui sont tombés. Et c'est effectivement, si vous prenez un cil, vous faites l'extraction de l'ADN, et vous pouvez, avec le séquençage du génome, identifier la personne. Et si je vous raconte, alors je ne vous raconte pas la fin du film, hein, faut aller le voir, ou regarder ça sur DVD. C'est vraiment c'est une histoire policière. Hein. On n'est pas très loin de ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des tests génétiques et séquencer de l'ADN à partir d'un cheveu, d'un cil, d'un ongle, d'une cellule de peau. Et les tests sur Internet sont florès à l'heure actuelle. Donc moi j'ai écrit un article avec une collègue dans une revue médicale, et puis récemment avec une de mes étudiantes à la revue Futurib, qui est dirigée par Hugues de Jouvenel, sur ces questions-là. Les tests sur Internet, vous voyez, il y a des sociétés qui se commercialisent sur le web. Donc là, vous voyez un manipulateur qui manipule des petits tubes, et dedans, il y a de l'ADN de différentes personnes. Alors, c'est dans Nature Biotechnology de 2008 où il y a un article qui est paru sur les risques à commander des tests génétiques. Du coup, on n'est plus un malade, on est un client. Consumer Genetic Test, c'est des tests pour des clients. Alors, en 2008, c'était $100 pour un seul gène, jusqu'à 350 000 $ pour un génome. Alors ça a complètement baissé, on va arriver à $1 000 le génome. On va dire quoi ? On peut séquencer mon ADN et, j'allais dire comme les Anglais, et so what ? Et alors, qu'est-ce qu'on va apprendre ? Est-ce qu'on va apprendre qu'on est malade ? Avec tout ce que je vous ai raconté sur la méthylation, c'est pas parce que vous avez les mauvais gènes que vous allez exprimer la maladie, c'est une probabilité, sauf des gènes dont je vous ai parlé, hein, avec des hérédités très 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 précises, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, il y a vraiment une question éthique, parce que là, je suis allée faire une capture d'un tableau sur le site web d'une des sociétés, 23andMe, vous voyez pourquoi ? Bravo ! Et elle, la dame, la directrice de ce site-là, c'est la femme d'un des fondateurs de Google. Donc, vous voyez, l'informatique, la génétique, hein, elle est dans la bioinformatique. Et il y a Decode Diagnostics qui est en Islande. Il y en a plein, hein, des sociétés. Donc là, j'ai fait une capture d'écran. Il y a 23andMe, Consumer Genetics, Decode, là. Et il y en a comme ça un grand nombre. Ça offre des tests qui permettent de déterminer beaucoup de maladies, notamment votre métabolisme à l'alcool. Ah bon, je peux boire beaucoup, je serai pas malade. Au contraire, je vais prendre un verre et je vais pas me sentir bien. La caféine, est-ce que je peux en abuser? Est-ce que j'aurai un diabète de type 1 ou de type 2? Est-ce que j'aurai la sclérose en plaques? Alors, vous imaginez, vous envoyez votre test d'ADN et vous recevez une lettre qui vous dit « Alors, vous allez avoir un cancer de la prostate, monsieur. Bon, votre addiction à l'alcool ne nous inquiète pas, etc. etc. » Donc là, ça pose un problème éthique. Est-ce que c'est vrai? Qui vous dit que c'est vraiment votre ADN qu'on a regardé? Qui vous dit que les résultats sont justes? Qui vous dit que le risque que vous allez développer est juste ou pas juste? Et d'autre part, il n'y a pas du tout de, comment dirais-je, d'accompagnement médical. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un médecin qui vient là à commenter l'analyse. Donc là, c'est fait de façon très simple, hein. On prélève de la salive, donc vous recevez un petit kit, une petite spatule. Alors évidemment, il faut que ce soit fait dans des conditions d'hygiène, et vous prélevez de la salive et vous l'envoyez. Donc vous pouvez... parfois on peut prendre du sang ou des fesses. Enfin, à la limite, vous pouvez prendre ça à l'insu de quelqu'un. Alors, l'administration Obama s'est chargé du dossier et voudrait comprendre qui est derrière ces sociétés et qui fait quoi, parce qu'il y a quand même des problèmes qui pourraient se poser d'ordre éthique. Alors là, vous pouvez choisir vos tests d'ADN et accéder à une plateforme où vous pouvez, à travers un forum de discussion, échanger des informations avec les uns et les autres. Eh bien, figurez-vous que des gens se retrouvent, forment des groupes sociaux en fonction de leur profil. Ah bon, toi aussi, tu as le diabète de type 1 et la sclérose en place, ça va. C'est moi aussi, j'ai le même profil que toi, donc peut-être qu'on peut boire un verre ce soir. Et les gens se retrouvent, ils discutent. Alors, c'est peut-être le côté positif des choses, mais ça veut dire que bon, on se retrouve sur des profils qui ne sont pas forcément vrais, pas forcément justes. Vous me direz, l'important c'est de se retrouver et d'échanger. Alors, en tout cas, voilà, ça existe. Et ça va même un petit peu plus loin sur ces plateformes. Alors, il faut avoir donné son ADN, hein, il faut avoir payé pour accéder à la plateforme de discussion, hein, sur le forum. Alors, ça va un petit peu plus loin parce que figurez-vous qu'aux États-Unis, contrairement à nous en France, on donne notre sang, on donne notre sperme. Aux États-Unis, on vend. On vend le sperme et souvent, c'est des étudiants, des jeunes étudiants, comme les facs américaines coûtent très cher. Les étudiants, ils travaillent tous, hein. Ils vont à la fac, ils travaillent. Donc certains vendent leur sperme pour avoir de l'argent. Bon, alors maintenant, c'est un peu plus réglementé, mais ils pouvaient en donner régulièrement. Donc, il y a des femmes qui ont fait une insémination artificielle à partir de sperme de l'université, parce que l'université, elle est à côté d'un hôpital universitaire. Donc, il y a des gens qui se sont trouvés comme ça sur genre de plateforme, de forum, disant, mais on a des choses en commun, des gènes en commun. Moi, je suis née par fécondation in vitro. Maman a eu donc une fécondation in vitro par du sperme qui a été collecté dans tel hôpital. Et l'autre qui lui dit, ah ben oui, tiens, moi, c'est pareil. Et on a peut-être quelques mois ou quelques années d'écart. En tout cas, les gens, globalement, naissent là où il y a eu la fécondation in vitro, dans le même hôpital. En gros, hein, c'est statistique. Et il y a des demi-frères et des demi-sœurs qui se sont retrouvés comme ça. Alors, de là, après, à retrouver celui qui a le père biologique, il n'y a qu'un pas. Donc, vous voyez que... alors ça c'est lié à Internet, hein, c'est lié au fait qu'on peut diffuser l'information, la partager, mais en plus de partager ces informations intimes de votre carte génétique, même si elle est, très insatisfaisante parce que elle vous fiche pas comme ça dans le temps, quand même il y a de l'information qui est partagée. Alors, en conclusion, parce que on va discuter maintenant entre nous, on va de plus en plus utiliser donc le génie génétique, hein, pour produire des modifications. Donc, il y aura des races animales génétiquement transgéniques qui vont produire des molécules pharmaceutiques, comme des lapins qui vont produire de l'hémoglobine humaine dans leur lait. Par exemple, des plantes transgéniques qui vont pouvoir allier compétitivité et respect de l'environnement, lutter contre les maladies et les prédateurs dans le réchauffement climatique, une meilleure gestion des intrants, en particulier de l'eau, une alimentation peut-être plus saine. Un exemple qui est donné, vous voyez ici, c'est du phytoplancton, une drôle de tête, hein. Et on lui a prélevé 6 gènes, on les a introduits dans le génome du soja, c'est la société DuPont, c'est basé aux États-Unis, qui produit un acide gras qui est connu, hein, qui est l'oméga-3, la DHA. Donc probablement, dans quelques années, on aura de l'huile qui sera enrichie en oméga-3. Et ça, effectivement, des acides gras polyinsaturés, c'est bon pour contre les risques cardiovasculaires. Alors, il y a des plantes transgéniques qui vont pouvoir dépolluer les sols de métaux lourds. Ça s'appelle la biodépollution ou la phyto phyton, c'est en grec, c'est la plante. Rémédiation, c'est l'enlever. Donc il y a des peupliers qui permettent de décontaminer les polluants et assainir donc des sites contaminés de déchets dangereux. Par des tests génétiques comme les puces ADN, hein, où il y a toutes les petites cases, c'est de l'ADN, et on peut imaginer que toutes les petites cases, ça pourrait être une nouvelle protéine produite par l'ADN qu'on veut tester. Donc là, on va pouvoir tester des nouveaux traitements, hein, des vaccins, des protéines recombinantes, des anticorps monoclonaux, la thérapie cellulaire, on pourra peut-être faire la thérapie génique, introduire le gène sain sans apprendre un virus pour qu'il puisse rentrer, diagnostiquer, et on pourra mieux différencier la part de notre héritage génétique et l'environnement. Et enfin, dont on parlait, c'est de faire des essais cliniques et des pratiques de prescription, hein, qui, à mon avis, vont être assez révolutionnaires, parce que ça sera vraiment basé sur nos séquences d'ADN. Voilà, je vous remercie de votre attention.